Radio-Canada, audio.
OK, allons-y. Nommé année après année comme le sixième pire endroit pour une personne bègue.
Bonjour, je prendrais de 12 beignes, s'il vous plaît.
Le Tim Horton.
Non, je vais choisir.
Surtout si, comme moi, on s'obstine à refuser que la gentille madame les choisisse pour nous.
Beignes double chocolat, s'il vous plaît. Un glacé à l'érable.
Je dis le sixième pire endroit. Je crois pas qu'il y ait de statistiques officielles à ce sujet-là, mais je suis pas mal convaincu de ne pas être le seul bègue pour qui devoir dire des mots précis alors qu'on a un spotlight sur nous.
Un fourreau bleuet, avez-vous ça? Avez-vous ça?
Pendant que d'autres personnes attendent.
Non, vous en avez pas. Une roue de tracteur.
Mm-hmm. Alors qu'il n'y a pas tant d'alternatives au mot chocolat.
Un glacé au chocolat.
Je pense pas être le seul bègue, donc, pour qui tout ça, ça constitue une peur absolument disproportionnée par rapport à l'enjeu.
Bon, il m'en manque un, hein?
Même si on parle de bègue, là, ici, quand même.
Je vais un autre chocolat, s'il vous plaît. Merci. Parfait. C'est moi qui a arrêté le sucre en plus. Bravo. Excellent.
Je dirais au début de l'âge adulte, je suis allé voir le site web. C'était le début des sites web. Je suis allé voir le site web de l'Association des bègues du Canada. Et ce qui était écrit, j'avoue que je ne l'ai pas tant vu venir. C'était quelque chose comme le bégaiement est un problème qui ne se règle pas. Oui, il y a moyen par des traitements, des thérapies, d'améliorer la fluidité, mais ça se réglera pas. Essayez même pas. Je paraphrase, évidemment. Ça disait, la meilleure chose que vous pouvez faire, ce qui va améliorer le plus votre condition, c'est, attention, l'acceptation. Au secondaire, j'étais dans l'équipe d'improvisation. On a même gagné un tournoi provincial à un moment donné. J'ai fait de la comédie musicale. Je suis devenu ensuite, entre autres, professeur de théâtre. Et aujourd'hui, je travaille dans un métier de communication. Je suis réalisateur de balado. On pourrait croire donc que je suis de ceux qui vivent bien avec ça. Non. Je m'arracherais la tête à tous les jours. Je vis très mal avec ça. Je vis mal avec la communication. Et en même temps, ça me fascine. Je pense pas que je ferais des balados sinon. J'aime pas les podcasts à ce point-là. Bon, j'aurais aimé être au-dessus de tout ça et vous dire à quel point c'est merveilleux quand on a fait la paix avec soi-même et avec ses limites. Non? C'est juste pas mon cas encore. Vous allez donc profiter de mon absence de sagesse. Je m'appelle Michel Montreuil et je suis bègue. Bon, habituellement, je me présente pas comme ça, évidemment. D'abord parce qu'idéalement, je suis autre chose que ça. Que j'essaie d'y penser ô combien le moins possible et que j'espère que ça ne me définit pas tant que ça en bout de ligne. Mais aussi parce que c'est une chose qui, de toute façon, devient apparente autour de la deuxième phrase dans une bonne journée. Et finalement, je me présente habituellement pas comme ça parce qu'une des premières choses que les bègues de mon genre apprennent à faire, c'est, comment je pourrais dire ça, c'est d'épurer le propos. J'ai récemment réalisé qu'une des choses qui m'empêche d'accepter mon bégaiement, c'est le fait que j'ai pas tant, au fil des années, exploré les possibilités de traitement. Et la seule raison, à part quelques mauvaises expériences dont je parlerai peut-être plus loin, la seule raison que je vois à ça, c'est que si je me tape tous les traitements possibles et que ça améliore pas mon état, ben je me retrouve devant quoi? Devant le fait d'être pris avec ça pour le restant de mes jours? Puis, à ce moment-là, il me resterait quoi? L'acceptation? Je vous l'ai dit tantôt que j'ai de la misère avec ça. Je vois pas pourquoi on vient là-dessus. Là. Je sais pas si c'est ça, mais chose certaine, j'ai 51 ans. Puis soudainement, je me dis que l'acceptation, ce serait peut-être déjà pas mal. Donc, Pour m'aider, je vais aller sérieusement faire ce que je redoute de faire depuis bien trop longtemps. Je vais aller m'informer. Peut-être que les choses ont évolué depuis l'invention de l'Internet. Il y a un dicton qui dit « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Bon, comme moi, je peux pas dire que je suis vraiment prêt, c'est Marcel Sabourin qui est apparu.
Que ça se guérisse ou que ça se guérisse pas, ton cerveau, il s'en contre-calisse. Il va embrasser l'acceptation.
J'ai dirigé Marcel lors de la lecture d'un livre audio il y a plusieurs années. Je me souviens que c'était une période où je bégayais particulièrement beaucoup. Ça vient par phase, en passant. Et Marcel s'était dit super intéressé par mon bégaiement et par le fait que j'avais le poste de direction d'acteur. Il y avait évidemment plein d'anecdotes à raconter qui ont égayé et ralenti le travail. Et il m'avait alors parlé d'une technique autogénique qu'il voulait me présenter quand ça donnera et qui pourrait m'intéresser. Qu'il y aurait un livre à me prêter là-dessus. Bref, je m'étais pris une note que le jour où je ferais un projet sur le bégaiement, j'irai le voir, lui, en premier.
Mais de demander à son cerveau, « Écoute, mon cerveau, tu me crées des embûches terribles. T'es juste un tabarnak. S'il te plaît, tout en étant un tabarnak, essaye donc de m'aider. »
Bon, quand je suis arrivé chez lui, il m'a avoué qu'il avait perdu le livre en question.
Dans le livre que je n'ai pas retrouvé, je l'ai cherché encore.
La technique autogénique, de ce que j'en comprends, c'est une méthode de relaxation. Et la relaxation, c'est particulièrement important pour les bègues, on s'en doute. Donc, de relaxation et de reprogrammation psychophysiologique. Bref, j'y reviendrai peut-être lorsque j'aurai retrouvé une copie du livre qui n'est pas facile à trouver.
Et ça m'a aidé énormément. C'est un système de détente. Ça n'a pas l'air, hein? Je suis bien, bien nerveux, mais tu ne m'as pas vu avant.
Mais alors, ma visite n'a pas été inutile, parce que même si il n'est pas un spécialiste du sujet, Marcel, en plus d'être un de nos grands comédiens, est un puits sans fond de sagesse qui a fait de la communication un axe important de sa vie.
Il me semble...
Et sa seule présence inspirerait n'importe qui à faire n'importe quoi.
Ce que j'ai appris avec ça, et ce que j'ai appris en enseignant aussi d'acter avec mes étudiants, c'est que il faut accepter d'avoir peur de quelque chose. Il ne faut pas faire comme si on n'avait pas peur. Il faut même mimer la chose dont on a peur afin que le cerveau l'affronte, que le cerveau la connaisse, cette peur-là, qu'il la malaxe, qu'il la tourne dans tous les sens et qu'il fasse son devoir. Son devoir, c'est de faire en sorte que la personne soit la mieux du monde.
On a parlé de choses et d'autres. Enfin, on a parlé de choses et de surtout beaucoup d'autres. Puis, il m'a mentionné... Ça s'en vient.
La deuxième chose que je ferais...
Ceci.
Je bégayerais volontairement.
Bégayer volontairement.
Je ferais... ferais... Pour dire à mon cerveau, c'est ça là, dont je veux que tu te passes. Puis, etc. Afin de n'en plus avoir peur. C'est parce que c'est bon de ne pas avoir peur de ses défauts. C'est bon d'en rire. D'avoir le... C'est ça. De former à l'intérieur de soi une espèce d'humour face à ses problèmes. Et ça, pas juste pour le bégaiement, tout le reste, hein? Bon.
Je sais pas comment ça peut sonner pour un non-bègue, mais pour ceux qui ont passé... Donc, je veux parler pour moi. Pour moi qui ai passé ma vie à essayer de ne pas bégayer, c'est une des choses les plus non-intuitives et terrorisantes qu'on puisse me demander de faire.
Je parle de ça très aisément, justement. Tu sais, mais voyons, si j'étais bègue, ça serait... Je dirais pas ça aussi aisément, puis aussi, tu sais,
comme une petite bulle. Oui, 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 oui. My eye, c'est ton humour. Tu sais? Non, non. C'est un vrai problème, puis il n'y a pas à sortir de là, puis il n'y a pas à faire comme si on ne le voyait pas, puis il n'y a pas assez. Non, non, c'est là. Il s'agit de... Une fois que c'est là, une fois que tu as accepté que c'est là, ce que tu as dû te dire, plusieurs fois, 100 fois, 1000 fois, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais quand c'est soi-même, on souffre trop et on a de la difficulté à être aussi simple que ce que je viens de dire. Mais c'est ça qu'on devrait faire, c'est... Bon, que c'est qu'on fait avec ce problème-là?
Oh, bonne question. Je suis sorti de là décidé à affronter le monde en clamant haut et fort à l'intérieur de moi ma nouvelle résolution de ne pas avoir peur de mon problème en faisant... Je sais pas encore exactement en faisant quoi, mais Marcel m'avait gonflé à bloc.
Hello. Pourquoi qu'on fait des affaires de même?
Tu sais, quand c'est pratiqué tantôt, tu le dis fluidement au complet.
Je comprends, mais même à ça, tu
sais. Je sais que je vais rien pouvoir te dire.
Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé à faire une présentation à la journée du balado d'audio pour parler du processus créatif derrière un balado qui s'appelle Récidive, que j'ai eu le grand bonheur de faire avec Manuel Légaré.
Ah! Bien, c'est ça, on ne parle pas si longtemps, c'est ça. Cool, on fait comme ça.
Alors, j'imagine que je suis la caméra qui est allumé, c'est ça? Celle avec le foyer en verre? OK. Parfait.
Une minute.
Une minute.
Je crois pas avoir à spécifier que ce genre-là d'exposé oral me stresse des semaines à l'avance. Or, n'écoutant que mon inconscience, je me suis dit naïvement, tiens, quelle belle occasion de mettre en pratique le truc de Marcel. Bégayons volontairement.
Savais-tu que Marcel Sabourin est un expert en bégaiement?
Non.
Ben, c'est parce que c'en est pas un. Je sais pas pourquoi que je l'écoute. 5, 4, 3, 2.
J'étais tellement terrorisé que j'ai élaboré la logique suivante. Si j'arrive à bégayer volontairement, alors que j'ai 3 caméras d'en face, je pourrais clairement me considérer en voie de guérison ou du moins faire bonne figure comme un jackass du bégaiement.
Mon métier après ma barre, mais là, je me sentais tellement interpellée, je me suis tellement investie, que j'ai voulu le faire. Puis...
Alors, vous allez m'entendre ici, pour la première fois de ma vie, bégayer...
Manuel m'a présenté le projet et je l'ai refusé.
Ah non.
Je l'ai refusé parce que... C'était pas parce que l'histoire n'était pas intéressante,
J'ai pas été capable.
Et je rêvais de travailler avec Manuel depuis longtemps, mais j'avais un problème avec le sujet...
À la dernière seconde, il y a un sens des responsabilités qui est apparu. Je représente Radio-Canada quand même. Là. Je me dois de donner la meilleure performance possible et je commencerai pas à expérimenter pour mon propre compte sur le dos du diffuseur public. Je veux dire, on paye ça avec nos taxes. Là.
C'est... À cause de ces doutes-là.
J'ai choqué.
Et
j'ai eu peur.
Là, je donne
peur du... le truc aux gens que ça... du ridicule de bégayer alors que je l'allais le faire de toute façon.
Un projet qui m'intéresse moins, disons.
Alors, j'ai bégayé ensuite de la bonne façon, c'est-à-dire involontairement, pour le restant de l'entrevue.
C'est bon. Je pense que c'est tout ce que créateur veut et j'ai donc dit oui.
Ceci dit, j'ai quand même réussi plus tard à faire l'exercice alors que l'enjeu était moins grand.
Bonjour, je prendrais de 12 beignes, s'il vous plaît. Non, je vais le choisir. Un beigne double chocolat, s'il vous plaît.
Donc, là, c'est vrai. Vous m'entendez ici bégayer volontairement pour la première fois de ma vie. C'était vraiment pas facile.
Fourré aux fraises? Oui.
Jusqu'à la dernière seconde, je me demandais si j'y arriverais.
Fourré aux bleuets, avez-vous ça?
Mais il faut dire que j'ai pas tant eu le choix, parce qu'au moment où je me suis présenté la première fois pour enregistrer la scène du Tim Hortons servant à montrer combien j'ai de la difficulté avec ces situations-là, l'adrénaline aidant, probablement, voilà ce qui s'est passé.
Bonjour, je prendrai 12 beignes pour emporter, s'il vous plaît. Oui.
C'est tout?
Oui, c'est tout.
C'est
un beigne double chocolat. Et un au bleuet, vous avez au bleuet? Merci.
Parce que oui, des fois, il y a des jours où, même si c'est pas parfait...
Un glacé au chocolat.
Ça va mieux.
Merci beaucoup et bonne journée à vous. Pardon. C'était pas le but de l'opération, nécessairement. Qu'est-ce que je fais, là?
Je suis donc retourné et, pour l'amour de l'art, j'ai fait ce que j'avais à faire.
Un beignet. Allez, à l'ancienne. Non, à l'ancienne.
Je peux pas dire que ça a dédramatisé beaucoup.
Crème sûre.
À force de le faire, j'imagine.
Il m'en manque un.
Parce que ça reste une forme d'auto-humiliation que je suis pas encore prêt à pratiquer de façon régulière.
Chocolat, s'il vous plaît. Merci.
J'ai du chemin à faire, mettons.
Parfait.
Mais si c'est bien de me lancer des défis comme ça, inspirés par Marcel, je sentais qu'il était temps que je rencontre des spécialistes. Et le premier que je suis allé voir, parce que j'aime bien commencer du début, et parce que ça faisait un bail que je voulais aller prendre un apéro avec lui sur la plage, et surtout parce que ça me donnait une bonne raison de ne pas encore affronter ma peur des orthophonistes. Le premier spécialiste, donc, que je suis allé voir, c'est Alain Cadotte, un historien. J'ai abordé avec lui le cas de ce qui semble être le premier bègue répertorié, Démosthène.
Démosthène était de l'avis de tous le plus grand orateur de l'Antiquité. Même Cicéron, qui n'était pas piqué des vers, le reconnaît comme le plus grand. À l'époque de la Grèce antique, c'est une démocratie et l'art oratoire devient à ce moment-là essentiel. Dans les monarchies, l'art oratoire est beaucoup moins important parce qu'il y a un être qui décide pour tous. Mais là, il s'agit de convaincre les citoyens de voter en faveur d'une loi plutôt qu'une autre. Et à ce moment-là, l'art de l'élocution, une bonne élocution d'abord, est essentiel pour convaincre ses concitoyens. Et dans le cas de Démosthène, c'était un bègue hein, au départ. Il avait plein de défauts d'élocution, du moins c'est ce qu'on prétend. Et ce sont des défauts qu'il a dû surmonter pour en venir à devenir le plus grand orateur de son époque. Et donc, il faut savoir que chez les Athéniens, les orateurs moins compétents étaient très peu respectés et hués, sifflés durant leurs discours. Ils n'arrivaient même pas à finir leurs discours. Alors, il est important de convaincre dès le début, avec une bonne voix, avec une bonne élocution, avec un maintien fier et noble et tout ça. Alors, ça fait partie de la sauce qu'il doit prendre pour convaincre les citoyens.
J'essaie d'apprendre à propos des premiers trucs qui ont été utilisés pour essayer d'enrayer le bégaiement.
Mais il va trouver plusieurs moyens inorthodoxes. Alors, de un, il s'entraînait à parler, à discourir avec des cailloux dans la bouche. Et d'autre part, il s'entraînait à grimper des collines et à courir, faire du jogging carrément, tout en discourant, en prononçant des vers. Alors, l'idée était d'augmenter sa capacité à bien rendre la parole tout en étant dans des circonstances extrêmes. Il y a aussi la vieille tradition, souvent reprise, comme quoi il s'entraînait au bord de la mer. Il y a même un tableau de la croix qui illustre tout ça. Alors, donc, il s'entraînait à discourir, à parler fort devant la mer pour couvrir les bruits de vagues de sa voix. L'idée étant ici de gagner en confiance, d'augmenter son volume et d'améliorer son élocution dans des circonstances, encore une fois, extrêmes.
OK. J'ouvre une parenthèse. Si vous me surprenez présentement en plein en train de ne pas bégayer ou de peu bégayer, c'est pour trois raisons. D'abord, vous n'êtes pas là. Prenez-le pas mal, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, oui, je vous parle à vous spécifiquement, mais je n'ai pas à faire face en temps réel à la lecture de votre réaction par rapport à moi. Parce que personnellement, comme bègue, je suis un spécialiste de ce que mon bégaiement a comme impact sur vous. Même enfant, j'ai rapidement appris à lire ce que mon problème occasionnait de réaction et de troubles chez les autres. Un genre de sixième sens qui me permet, j'imagine, de savoir si je suis en sécurité pour continuer. Savoir si on va se comprendre au-delà de mon bégaiement. Deuxièmement, si j'ai pas tant de difficultés à parler en ce moment, c'est que mon texte est écrit, j'ai fait ça tantôt. Mais pour être franc, le fait que ce soit écrit, ça peut aussi jouer des deux côtés. C'est plus simple parce que j'ai pas trop à penser à ce que je veux dire. J'ai juste à lire les mots. Mais en même temps, comme les mots sont écrits, je peux aussi moins facilement les contourner, moins facilement choisir un mot que j'aurais plus de facilité à prononcer. parce que comme beaucoup de personnes bègues, je fais ça tout le temps. Bon, je pourrais quand même le faire et vous ne le sauriez pas parce que vous n'avez pas le texte devant vous. Mais de toute façon, il n'y a pas de règle grammaticale qu'un bègue n'est pas capable de contourner si ça peut lui permettre de s'en sortir. Parce que, oui, pendant toute discussion, aussi inoffensive qu'elle puisse être, le bègue se bat. Et troisièmement, si je bégaye raisonnablement en ce moment ou pas du tout, c'est que c'est également moi qui fais le montage. Que je sais que je peux tout reprendre et que j'ai pas l'humilité de vous exposer directement, sans filtre, comme ça, à froid, la façon dont je parle habituellement. J'ai assez l'impression de vous l'imposer dans la vraie vie. Bon, je vais évidemment essayer de mettre ça sur le dos du rythme du balado que je dois préserver, mais comme je viens de vous dévoiler mon plan, ça s'appelle se tirer dans le pied un peu. Non, OK. Je m'engage à essayer de ne pas trop reprendre mes narrations à partir de maintenant. Et quand vous allez entendre des choses qui ne sont pas de la narration, vous allez m'entendre naturel, mettons. Pour essayer de vous donner un aperçu de ce dont ça peut avoir l'air de me fréquenter. Question de me garder un peu de crédibilité, malgré la tentation que j'aurais de tout corriger et de vous faire croire que je bégaye pas, qui est un luxe que j'ai pas dans la vraie vie. Je m'engage donc à essayer de faire le moins de montage possible. Oh, que je promets rien.
Alors voilà, dans cette série de... Alors voilà, dans cette série de balados-là, je vous propose de vous emmener avec moi faire face à tout ça. Rencontrer d'abord d'autres bègues, voir de quelle façon ils ou elles vivent ça, échanger des notes, puis voir à quel point que je suis un extraterrestre.
Parler quand tu veux parler, te commander un café au Tim Hortons, même si ça prend 15 secondes au lieu de 3 secondes, c'est pas grave. C'est là-dessus que je travaille actuellement.
Ensuite, et surtout, je veux finalement, pour la première fois depuis mon secondaire 1, aller à la rencontre des orthophonistes qui savent peut-être de quoi ils parlent, finalement.
Bien, je pense que ce qu'on pourrait faire... Je sais pas si ça va marcher. Une genre de formule...
J'aime ça déjà.
Speed dating, oui. Avec différentes thérapies.
J'adore, oui.
On se donne genre une heure, là, puis on essaye différentes.
Ouais.
Puis c'est dans le cadre du podcast. Puis l'objectif, ça pourrait être, bien, après ça, je vais avoir une idée de ce que je veux, moi, pour aller faire ma thérapie, tu sais.
Je vais me prêter au jeu. Je vais me confronter à mes réticences devant vous et je vais m'essayer à multiples thérapies pour voir où en est la science, pour savoir d'abord ça vient d'où ce foutu problème-là, pour voir c'est quoi les ressources qui nous sont accessibles aujourd'hui et pour voir, en bout de ligne, à quel point je vais devoir tomber dans l'acceptation.